Les nuits de France Culture.
En 1956, Luc Bérimont proposait dans « La parole est à la nuit » aux auditeurs de la chaîne parisienne une rencontre avec Marcel Pagnol. Agrémenté d'extraits de la trilogie « Marius, Fanny et César » et d'extraits de Topaz, Marcel Pagnol y parlait de la probable origine espagnole de son nom et évoquait la personnalité de son père, instituteur, dont il s'était inspiré pour écrire Topaz. Une rencontre durant laquelle Marcel Pagnol racontait comment il s'était pris de passion pour le cinéma à l'époque du tournage de Marius, réalisé par Alexander Korda, en réaffirmant qu'il n'existait pas, selon lui, de différence de nature essentielle entre l'art dramatique et le cinéma. Une archive qui valait notamment par l'extrait surprenant que l'on y entendait de Fanny dans la version musicale créée par Joshua Logan en 1954 à Broadway. Une émission diffusée le 7 janvier 1956 sur la chaîne parisienne.
Dans le cadre de l'émission « La parole est à la nuit », Luc Bérimont présente Marcel Pagnol. Un film enquête radiophonique réalisé avec le concours de Jacques Bureau et Francis Gastambide. Mise en onde, Bernard Gandréretti. Avec les voix de Rému, Pierre Freinet, Orane de Mazis, Charpin, Mouriès, Dulac, dans des extraits de la trilogie Marius, Fanny, César, et celle d'André Lefort dans des extraits de Topaz. Collaboration artistique Anne Spies, assistante Hélène Delabrusse.
C'est le courrier de Saïgon.
Marius, ça siffle.
C'est le courrier de Saïgon.
Eh non, idiot, c'est le percolateur.
Oh, pardon.
Marius.
Oh.
C'est toi qui offres le café?
Oui.
Bon.
Tu as envie de tasse, je viens de le faire.
Non.
Pourquoi?
Parce que si nous buvons tout gratis, il ne restera plus rien pour les clients.
Oh, tu n'as pas pleuré pour une tasse de café, dis.
C'est pas pour le café, c'est pour la manière.
Quelle manière?
De boire le magasin pendant que je dors.
Si à 23 ans, je ne peux pas offrir une tasse de café, qu'est-ce que je suis, moi?
Un enfant qui doit obéir à son père.
À 23 ans?
Oui, monsieur. Moi, il a fallu que j'attende l'âge de 32 ans pour que mon père me donne son dernier coup de pied derrière. Voilà ce que c'était que la famille de mon temps. On avait du respect et de la tendresse.
Venus, attablés dans ce bistrot du vieux port, avec leur tendresse, leur humanité, leur humour, si vrai, si présent, si charnel, que l'on ne peut se résigner à croire que ce sont là des comédiens qui jouent un rôle. Ils sont tous venus, échappés des quatre points de l'horizon, certains remontés de la nuit, mais toujours exacts à chanter le grand poème de l'amour et de la mer. Ils ont appris à vivre avec chacune de ces paroles.
Cet homme veut naviguer, vous n'avez pas le droit de l'empêcher.
Mais s'il veut naviguer, qu'il navigue. Le bon Dieu qu'il navigue où il voudra, mais pas sur l'eau.
Mais alors, où veux-tu qu'il navigue?
Je veux dire, pas sur la mer, qu'il navigue comme toi, tiens, sur le vieux port, là. Ou sur les rivières, ou sur les étangs, ou... Et puis, non, t'as Dieu, est-ce qu'on a besoin de naviguer pour vivre? Hein? Monsieur Panisque, est-ce qu'il navigue, lui? Non, pas si bête. Lui, il fait des voiles. Il fait des voiles pour que le vent emporte les enfants des autres.
Conversation au bord de la Méditerranée. Les petites vagues écumantes et deux promeneurs, deux hommes qui flânent en regardant tomber la nuit. Le jeu des questions, des souvenirs.
Pagnol, Pagnol, c'est un beau nom sonore, plein de soleil et d'eau. On y entend en quelque sorte bouger la mer. Mais est-ce que c'est exactement un nom de la région ?
Je crois, et j'ai d'ailleurs d'assez bonnes raisons pour ça, que c'est un nom d'origine espagnole. N'est-ce pas ? J'ai retrouvé dans la mairie de Valréas toute une série de Pagnols. Et avant eux, il y avait Spagnol, et avant, il y avait l'Espagnol. Et on m'a dit là-bas dans la famille que nos ancêtres étaient venus d'Espagne et que c'était des armuriers qui trempaient des épées à Valréas, dans l'Ouvèze, qui est une petite rivière là-bas. Puis alors, ils ont été armuriers jusqu'au moment des mousquets, où ils ont commencé à fabriquer des mousquets. Puis lorsque sont venus les fusils, ils se sont mis à faire des cartouches. Puis peu à peu, ils ont fini par faire le carton des cartouches. Et il reste maintenant des Pagnols cartonniers. Il n'y a plus d'armuriers.
C'est-à-dire qu'ils évoluent avec leur temps.
Ils ont évolué avec leur temps, puis peut-être aussi avec les partages de famille. Moi, je suis né à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, qui est une très petite ville, où mon père était instituteur. Car, vous savez, dans les écoles normales d'instituteurs, à la fin de leurs études, il y a une espèce d'éclatement de la promotion, c'est-à-dire qu'on les envoie aux limites du département. Et ils passent leur vie à ramper vers le centre, pour revenir dans la grande ville. Alors, comme mon père était très jeune, ils étaient encore à Aubagne lorsque je suis né.
Mais pouvez-vous nous parler du caractère de votre père et des influences que vous avez reçues de son éducation ?
Mon père n'était pas pieux du tout, au contraire. Et pourtant, il avait une mentalité de pasteur protestant. Il m'a élevé très sévèrement. Je ne veux pas dire qu'il me battait, loin de là. Mais enfin, avec une morale très stricte. Et je me souviens qu'un jour, un ouvrier est venu lui offrir une petite statuette qui valait bien à l'époque 2 ou 3 francs, parce que son fils avait été reçu au certificat d'études. Mon père l'a presque chassé de la maison en disant que c'était une corruption. C'est de là que j'ai pris le caractère de Topaz au premier acte, en le grossissant naturellement pour l'optique du théâtre.
La classe est commencée. Monsieur Jusserand, aujourd'hui encore, vous avez négligé d'arracher la feuille quotidienne. Je vous retire donc le calendrier.
Oh ben vrai.
Ça veut dire ça, oh ben vrai. Allons. Monsieur Blondet, vos notes de cette semaine sont excellentes. Je vous confie le calendrier. Dépouillez-le donc aussitôt de sa feuille périmée.
Merci, monsieur.
Demain matin, de 8h30 à 9h30, composition de morale. Inscrivez, je vous prie, la date de ce concours sur vos cahiers de texte individuels, tandis que je l'inscris au tableau noir. Élève Tronche-Bobine. Ah, monsieur Tronche-Bobine. Pour réussir dans la vie, c'est-à-dire pour y occuper une situation qui corresponde à votre mérite, que faut-il faire ?
Il faut faire attention.
Oui, si vous voulez. Et il faut faire attention à quoi ?
Courant d'air.
Alors, silence. Élève Tronche, ce que vous dites n'est pas complètement absurde puisque vous répétez un conseil que vous a donné madame votre mère, mais vous ne touchez pas le fond même de la question. Voyons, pour réussir dans la vie, il faut être... Silence. Laissez parler celui que j'interroge. Voyons, élève Tronche, votre dernière note fut un 0. Essayez de l'améliorer. Voyons, pour réussir dans la vie, il faut être...
Horrible.
Silence. 0. Asseyez-vous. Il faut être honnête. Supposons maintenant que, par extraordinaire, un malhonnête homme ait réussi à s'enrichir. Représentons-nous cet homme jouissant d'un luxe mal gagné. Il est admirablement vêtu, il a de plus une servante qui ne fait que la cuisine et un domestique spécialiste pour conduire son automobile. Cet homme a-t-il des amis ?
Oui, il a des amis.
Ah ah, vous croyez qu'il a des amis ?
Oui, il a beaucoup d'amis.
Oui. Et pourquoi aurait-il des amis?
Pour monter dans son automobile.
Non, monsieur Cordier, non. L'homme dont nous parlons n'a point d'amis. On lui tourne le dos, on le fuit comme un pestiféré. Alors, que fait-il?
Il déménage.
Peut-être. Mais qu'arrivera-t-il dans sa nouvelle résidence?
Ça s'arrangera.
Non, monsieur Durand-Victor, non, ça ne peut pas s'arranger. Parce que quoi qu'il fasse, où qu'il aille, il lui manquera toujours l'approbation de sa cons...
De...
Allons,
la de... concierge.
Silence. Monsieur Pitard-Vergnol, j'aime à croire que cette réponse saugrenue n'était pas préméditée. Et vous pourriez réfléchir avant de parler. Vous eussiez ainsi évité un zéro qui va porter à votre moyenne un coup sensible. Il lui manquera toujours l'approbation de sa conscience. Alors, tourmenté jour et nuit, pâle, amaigri, exténué, pour retrouver enfin la paix et la joie, il distribuera aux pauvres toute sa fortune parce qu'il aura compris que...
Bien mal acquis ne profite jamais.
Bien. Et que...
L'argent ne fait pas le bonheur.
Ah, mon père aussi disait que l'alcool était un poison mortel. Et il me le disait même quand j'avais 3 ans. Si bien que lorsque je passais dans la rue avec ma mère qui me traînait par la main, je regardais les terrasses de café où il y avait des gens qui buvaient des apéritifs et je voulais rester un moment pour en voir tomber un mort. Mais il n'en est jamais mort aucun. Et c'est ça qui a commencé à ébranler un peu ma croyance absolue dans ce que disait mon père.
Mais quelle a été la réaction de votre père au moment où vous lui avez soumis le manuscrit de Topaz? S'est-il reconnu?
Non, je ne lui ai même pas montré. Je ne lui ai pas montré le manuscrit de Topaz. J'écrivais un peu en cachette sans rien dire à ma famille, n'est-ce pas? J'étais à ce moment-là professeur adjoint au lycée Condorcet. Et mon père ne savait pas que je faisais des pièces. Et lorsqu'il a appris que j'allais quitter l'université, il est venu à Paris me voir et il m'a dit « Mais alors, de quoi vis-tu ?» Parce qu'il ne savait pas que des pièces de théâtre apportaient des droits d'auteur. Et d'ailleurs, il n'avait pas trouvé très juste. Il pensait que la gloire était un paiement suffisant.
Mais dans vos pièces, est-ce que vous vous êtes toujours attaché à dépeindre des personnages que vous avez côtoyés?
Oh oui, parce que vous savez, on n'invente rien. D'ailleurs, oui, on invente bien des choses, mais ce qu'on invente n'est jamais bon. D'ailleurs, on ne peut pas prendre un personnage tout entier et le mettre en scène, n'est-ce pas? C'est comme une conversation. Si on transporte une conversation telle qu'elle sur la scène, elle est extrêmement ennuyeuse. Et un personnage ordinaire, tout entier, ne serait pas intéressant. On fabrique des personnages sans le vouloir par la fusion de plusieurs personnes que l'on a connues. Je ne sais pas comment se fait ce mécanisme. Je sais qu'il se fait.
Est-ce que vous pensez que vos origines méditerranéennes vous aident dans ce travail d'imagination qui est toute création littéraire?
Écoutez, moi je suis un méditerranéen en somme de la Haute-Provence, n'est-ce pas? C'est-à-dire pas tout à fait méditerranéen, c'est plutôt la Provence des collines. Et il y a presque 2 races très différentes, c'est-à-dire que sur la côte, il y a les descendants des Phéniciens et des Grecs, qui sont plutôt des Orientaux. Tandis que du côté d'Arles, Valréas, Orange, ce sont vraiment les Gallo-Romains. La race n'est pas absolument pure parce qu'il y a un peu d'arabe à cause des invasions sarrasines. Et c'est ça qui fait les 6 beaux yeux des filles d'Arles. Mais Rému, par exemple, était un méditerranéen véritable. C'était un phénicien. Alors, Rému avait une barbe extrêmement noire et je suis sûr que s'il l'avait laissé pousser, il aurait ressemblé à un sourd banirpal. Et il avait cette énorme voix, n'est-ce pas? Et avec une tendance à l'embonpoint. Il s'appelait Murère, Rému. Et vous savez qu'il avait un caractère quelquefois insupportable. Il n'a jamais été méchant, pas du tout, mais il était insupportable. Et alors, un jour, j'ai appris qu'il s'appelait Murère. Je suis allé le trouver tout de suite chez lui, lui dire, dis donc, je viens de découvrir une chose, tu t'appelles Murère. Il me dit, oui. Je lui dis, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Il me dit, non, pas du tout. Je lui dis, bien, provençal, ça veut dire mouraire. Mouraire, c'est celui qui fait le mour. C'est-à-dire que ça veut dire, finalement, si vous me permettez le mot, ça veut dire emmerdeur. Il en avait été ravi, d'ailleurs. Et il m'avait dit, mon père était encore pire que moi. Il dit, un jour que le beefsteak n'était pas assez cuit, mon père a giflé ma mère avec ce beefsteak, disait Rému. Ce qui, d'après lui, était le comble de l'humour.
Écoutez-moi bien.
Il y a une question que je veux vous poser, une question très grave. Est-ce que vraiment je suis coléreux? Quoi?
Je fais ahem.
Et toi, escarte-fille, pourquoi tu ne réponds pas?
Mon cher, je ne suis pas bon juge. Depuis 65 ans que tu es au monde, tu dois bien savoir ce que tu es.
Ça, ce n'est pas prouvé.
On ne sait pas toujours ce qu'on est. Il y en a qui sont cocus, qui ne le savent pas.
Oui, à moins que leurs amis ne leur disent 10 fois par jour.
Oh, 10 fois par jour. C'est la première fois que je t'en parle depuis une semaine. Mais réponds à ma question. Depuis tout à l'heure, je me demande avec angoisse si je n'ai pas commis de graves erreurs, si je n'ai pas été injuste, si je ne suis pas en somme une vieille bête. Et si tout ça ne viendrait pas d'une tendance maladive à me mettre en colère?
Tu as dit maladive? Par conséquent, ça regarde le docteur. Allons, docteur, réponds-lui.
Et toi, tu ne peux pas me répondre?
Et je craindrais de me tromper, moi.
Et tu ris comme un imbécile. Comment un ami de 30 ans vient te poser une question grave, une question venue du cœur, et tu réponds par des ricanements?
César!
Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce rire? Ça veut dire que je suis une vieille bourrique.
Allons, César.
Comme par ton refus de me répondre, tu fais semblant de dire, sans le dire, que je suis coléreux et que tu as peur de ma colère. Et vous aussi, monsieur Brun. Vous ne répondez rien, mais vous faites semblant d'en penser le double. Quant à hum, avec son air supérieur, je me fous de ce qui ne dit pas et de sa coqueluche et des vieillards. Mais qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Depuis 30 ans, vous venez chez moi tous les jours et vous dites que je suis coléreux? Je supporte la stupidité des Scartefigues et vous dites que je suis coléreux? Je supporte les lyonnaiseries de M. Brun et vous dites que je suis coléreux? Je supporte le silence de ce médecin des chèvres et vous dites que je suis coléreux? Je supporte la présence de ce petit macaque, ce chauffeur, qui ne paie jamais ses consommations et qui de plus ne boit jamais rien et vous dites que je suis coléreux? Ce petit macaque-là, hier, je lui dis, tiens, sers-moi un piquant. Il me sert un piquant. Je lui dis, donne-moi de l'eau de sels. Il prend le l'eau de sels. Il appuie sur le siphon et il me le fait pisser dans la figure et vous dites que je suis coléreux?
Non, il n'est certainement pas coléreux et il nous le prouve.
C'est vrai, au fond. Je suis coléreux.
Eh bien, merci de Pagnol. Je crois qu'en parlant de Topaz, nous avons sauté délibérément certains obstacles, car Topaz n'est pas votre première pièce, votre première œuvre dramatique est Les Marchands de Gloire.
Oui, c'est un très bon et très mauvais souvenir, Les Marchands de Gloire, n'est-ce pas? C'est une pièce que j'ai faite avec mon ami Paul Nivoy. En 1924, nous avions fini la pièce, mais sur des petits bouts de papier. Et un beau jour, Nivoy, qui était rédacteur à Comédia, vient me chercher à Condorcet et me dit « Il y a Trébor et Brûlé qui veulent lire notre pièce. » Trébor et Brûlé venaient de construire le Théâtre de la Madeleine. Nous n'avions pas de manuscrit convenable à leur montrer. Alors, Nivoy me dit « Ne t'inquiète pas, on va arranger ça. » Il alla à Comédia, où il vola une machine à écrire, et il l'emporta chez lui, rue Tête-Bout. Je me souviens, au rez-de-chaussée. Et pendant toute la nuit, je lui ai dicté le texte des Marchands de Gloire. Et il tapait avec une vitesse admirable parce qu'il avait été dactylographe dans l'armée. Et nous avons fini le matin vers 5 heures du matin. Et alors il était épuisé. Il a fallu tremper ses mains dans de l'eau chaude parce qu'il était paralysé. Et nous sommes sortis pour aller boire un café crème, un petit bistrot de la rue Tête-Bout. Et sur le trottoir, il y avait le concierge qui était déjà en train d'arroser le trottoir et de balayer. C'était en été. Alors le concierge lui a dit, « Monsieur Nivoy, qu'est-ce que vous avez fait cette nuit? On a entendu un bruit comme des noix qui roulent dans un escalier, qu'est-ce que vous avez fait ?» Et alors Nivoy lui a dit, « Nous avons tapé une pièce de théâtre. » Et moi j'ai dit au concierge, « Oui, parce que nous avons fait une pièce de théâtre. » Et le concierge a dit, « Eh bien moi, j'aurais pas la patience. » À la générale, ça a été un des succès les plus immenses que j'ai vu au théâtre. Je n'ai jamais vu d'aussi grand. Les gens montaient sur les fauteuils pour applaudir, les gens s'embrassaient, c'était extraordinaire. Le lendemain, il n'y avait plus que la moitié, qui criait encore plus fort. Au bout de 4 jours, ils étaient 10 qui criaient comme 1000. Et Trébor m'a dit seulement, ils ne payent que comme 10. Et alors, on a arrêté la pièce à la 13e représentation.
Jazz est venu immédiatement après, je crois.
Oui, en 1926. C'était un professeur de faculté qui était un homme très charmant, professeur d'égyptologie, enfin, qui avait été assez sévère à un examen. Et alors, pour se venger, l'un des élèves a enterré, dans une petite île devant Marseille, il a enterré des débris de poterie qu'il avait volés au musée du Parborelli, mêlés avec des pots de fraises qui venaient de la foire d'Aubagne. Et qu'on avait convenablement noirci au feu. Et puis dans une excursion archéologique, on lui a fait découvrir ce trésor. Et il a fait une monographie sur l'installation des Égyptiens à Marseille, longtemps avant les Phéniciens. Et quand il a su la farce qu'on lui avait jouée, eh bien, il en est mort de chagrin. C'est une histoire lamentable.
Nous en arrivons maintenant, Marcel Pagnol, à votre grande trilogie, Marius, César et Fanny. J'ai laissé dire que, lorsque vous écriviez Marius, vous pensiez que cette pièce ne pouvait s'adresser qu'à un public spécifiquement marseillais. Est-ce exact?
C'est absolument exact. J'étais en train d'écrire un vaudeville, que heureusement je n'ai jamais fini. Alors j'ai commencé ce travail, qui était pour moi un travail sérieux, et pour me reposer, j'ai écrit Marius et Topaz en même temps, d'ailleurs. J'écrivais Topaz pour Dulin, et Marius, alors, pour Marseille. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je l'écrivais, c'était pour m'amuser. Lorsque la pièce a été finie, je l'ai renvoyée à Franck, le directeur de l'Alcazar de Marseille, qui m'a dit, mais pas du tout, on va la jouer à Paris, ta pièce, il faut la montrer à des directeurs. Je l'ai montrée à Rému, qui l'a montrée à Volterra, et on l'a reçue immédiatement au Théâtre de Paris. Et on l'a jouée 3 ans la première fois, après on l'a jouée encore une fois pendant au moins 1 an, puis on l'a jouée aux variétés assez longtemps aussi, plusieurs fois même. Puis on l'a beaucoup joué dans le monde entier, ce qui m'a le plus étonné, n'est-ce pas? Que cette pièce que j'avais écrite pour le cours Belzunce à Marseille, j'ai des photographies, des représentations à Abo, en Finlande, à Bergen, dans des petits ports suédois, c'est très étrange. Les critiques étrangers m'ont dit, c'est justement parce que c'est très marseillais, que c'est très local, que c'est extrêmement intéressant pour les gens de l'étranger. On joue aussi au Japon, Marius. J'ai des éditions ici, japonaises, que je vais vous montrer, c'était imprimé aussi. Je n'aurais jamais cru ça quand j'écrivais.
Quelle a été la part de Rému, selon vous, dans la réussite de...
Elle a été très grande. Rému était un acteur de génie, était un homme admirable. Et alors, un jour à table, il m'a dit, Marcel, tu me dois beaucoup, mais je te dois encore plus. Et nous sommes disputés, parce que je lui ai dit, c'est le contraire. Parce qu'il fallait toujours que nous disputions entre les deux, même quand nous étions d'accord. Et on s'est disputés pendant à peu près 25 ans.
C'était un style d'amitié.
Oui, c'était une façon d'être.
Mais il y a une charnière importante dans votre carrière, Marcel Pagnol, c'est votre passage au cinéma. Comment la chose s'est-elle effectuée?
Bien, j'avais donné à la société américaine Paramount les droits de Marius, le droit d'en tirer un film parlant. Je ne savais pas très bien ce que c'était que le cinéma. Et la Paramount m'a dit, nous allons faire ce film avec de grands acteurs de cinéma. Moi, je dis, je ne veux pas, je voudrais qu'on prenne les acteurs qui jouent la pièce au Théâtre de Paris, puis qui sont admirables. Alors Paramount a dit, eh bien non, alors dans ces conditions, nous ne faisons pas le film. Je dis, bon, tant pis, ne le faites pas. Alors au bout d'un an, ils ont fini par consentir à prendre toute la troupe du Théâtre de Paris. Et ils ont fait venir un metteur en scène d'Hollywood qui était Alexandre Corda. Et je suis devenu ami de Corda, qui m'a dit, je dis absolument, est-ce que tu viennes avec moi tous les jours aux prises de vue? J'ai été passionné par ce nouvel art, par cette nouvelle forme d'expression. Et c'est ainsi qu'après Marius fait par la Paramount, j'ai fondé ma propre société de production pour travailler librement et à loisir. Parce que dans les grandes sociétés comme la Paramount ou comme les autres grandes compagnies de films, il y a un emploi du temps très rigoureux. N'est-ce pas? On ne peut pas tourner aussi longtemps qu'on le veut. Il est difficile de refaire une scène un mois après parce que les décors ont été détruits. Alors c'est pour ça que j'ai construit à Marseille des studios et des laboratoires où j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années.
Mais voyons, avant la découverte, je dis découverte du cinéma parlant, vous étiez avant tout un auteur dramatique. Est-ce que le cinéma vous satisfaisait entièrement?
Oh oui, oui, parce qu'il me semble que c'est la même chose, n'est-ce pas? Le théâtre, c'est un art de réalisation et qui réalise une œuvre de l'art dramatique. Et le cinéma est aussi un art de réalisation qui réalise des œuvres de l'art dramatique de la même façon, seulement avec des moyens différents, peut-être plus souple, on peut faire tout ce qu'on veut, n'est-ce pas, sur un écran. Et puis, on peut recommencer quand on n'est pas content. Et puis, les acteurs ne vieillissent pas. Même mon cher Rému, qui est mort maintenant depuis bientôt 10 ans, Rému joue toujours, tous les soirs, il joue Marius, Fanny, César et le boulanger, le puisatier. Il joue continuellement et il donne à peu près 200 représentations par jour, 10 ans après sa mort. C'est là, il me semble, l'avantage le plus considérable du cinéma, le plus surprenant.
Tu vas me relire la lettre de Marius bien comme il faut. Allez,
Mon cher papa, pardonne-moi, mon cher papa, la peine que j'ai pu te faire. Je sais bien comme tu dois être triste depuis que je suis partie, et je pense à toi tous les soirs.
Bon, il pense à moi tous les soirs, mais moi, grand imbécile, je pense à toi toute la journée. Enfin, continue, hein.
Pour dire de t'expliquer toute la chose et de quelle façon j'avais cette envie, je ne saurais pas te l'écrire. Mais tu n'as qu'à demander à Fanny, elle a connu toute ma folie.
Folie, c'est le mot. Ça me fait plaisir de voir que tu t'en rends compte. Continue.
Maintenant, laisse-moi te raconter ma vie. Quand je suis partie, on m'avait mis aide-cuisinier.
Aide-cuisinier. Oh, eh bien, ils vont bien manger sur ce bateau. Au bout d'un mois, il n'y aura plus que des squelettes. Ce sera le bateau fantôme.
Vous avez eu une querelle fameuse à cette époque avec les gens du théâtre.
J'ai publié en 1930, en première page du journal, un grand article disant, d'ailleurs prophétisant même, ce qui est arrivé. C'est à ce moment-là, je disais, j'espère que beaucoup de théâtres allaient disparaître, qu'ils seraient remplacés par des cinémas, et que le film parlant apportait aux auteurs dramatiques des moyens nouveaux, et que le premier auteur de film, c'était Shakespeare. Qu'on allait pouvoir enfin réaliser Shakespeare ou Berlioz, par exemple, de la Damnation, ce qui n'avait jamais été possible sur un théâtre. Alors c'est là que Bernstein m'a tourné le dos à la Société des auteurs, a refusé de me serrer la main. Alors je me suis retiré à Marseille, où j'ai commencé à faire des films.
Vos préférences d'auteur dramatique vont-elles au théâtre ou au cinéma?
Ça ne peut guère se comparer, au fond. N'est-ce pas, les plaisirs que l'on a au théâtre ne sont pas du tout les mêmes que ceux que l'on a au cinéma. Au théâtre, il y a toujours une incertitude très considérable, n'est-ce pas, de la représentation. Que vont-ils faire ce soir? Comment ça va-t-il se passer? Il y en a un qui a mal aux dents. Tenez, vous voyez, pour mon Judas, Raymond Pellegrin, malade, a été obligé d'abandonner. Si j'avais tourné le film, il jouerait toujours, même s'il était malade.
Vos personnages de la trilogie sont devenus à l'heure actuelle des types universels, et on peut les retrouver chantant à New York, n'est-ce pas?
Oui, en ce moment même, on joue une grande opérette qui a été faite par Joshua Logan, celui qui avait fait South Pacific, qu'on a joué pendant 10 ans à New York. Et il a voulu faire à tout prix une opérette avec Fanny. Moi, je lui disais, tu perds ton temps et ton argent. Je ne vois pas comment on peut faire une opérette avec une pièce qui est assez, en somme assez triste. Et d'autre part, qu'est-ce que ça fera à New York? Je n'en sais rien. Je n'ai pas pu le convaincre de ne pas faire cette opérette. Il l'a fait, il avait mille fois raison. C'est un succès très considérable. On joue l'opérette depuis maintenant 1 an. Et Logan pense que ça durera encore plusieurs années. Et ils y ont ajouté des numéros américains en partant de fort peu de choses dans ma pièce. Par exemple, il y a dans Marius, à un moment donné, ils ont mis Marius et Fanny dans l'opérette. Il y a à un moment donné des Arabes qui viennent frapper au rideau de fer du bar de César et qui chantent une espèce de chœur de chanson arabe dans la rue. Ils en ont fait un chœur étonnant. Je peux vous en donner un disque si vous voulez.
يا زينة يا أحلى وردة في جنينة
يا زينة يا أحلى وردة في جنينة
جمالك بان
يو يو
أمان أمان
يو يو
جمالك بان
يو يو
أمان أمان
يو يو
واليوم العيد نفرح ونزيد وأنا وحبيبي
يو يو
واليوم العيد نفرح ونزيد وأنا وحبيبي
يو يو
Dans le cadre de l'émission « La parole est à la nuit », Luc Bérimont vous a présenté Marcel Pagnol. Un film enquête radiophonique réalisé avec le concours de Jacques Bureau et Francis Gastambide. Mise en onde, Bernard Gandré-Réty. Avec les voix de Rému, Pierre Freinet, Oran de Mazis, Charpin, Mouriès, Dulac, dans des extraits de la trilogie Marius, Fanny, César, et celle d'André Lefort dans des extraits de Topaz. Collaboration artistique Anne Spies, assistante Hélène Delabrusse.
Cette émission a été diffusée le 7 janvier 1956 sur la chaîne parisienne.